Bonjour à tous et à toutes. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous connaissez certainement ce verset à la fois puissant et déroutant. Vous êtes peut-être déjà tombé dessus lorsque vous lisiez la parole de Dieu. Ce verset se trouve dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, verset 14. Et il nous parle avec force de l'importance de la sanctification. La sanctification n'a pas vocation à rester à la périphérie de nos vies. Elle est au centre de la volonté de Dieu pour nous. Et l'apôtre Paul le précise d'ailleurs dans sa première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 4, verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » La sanctification fait partie de la volonté de Dieu pour nos vies et pour vos vies. Il a plu à Dieu de nous sauver de la mort et du péché par le salut qu'il nous offre en Jésus-Christ, son Fils. Et la sanctification fait partie prenante de cette réalité. Elle fait partie prenante, de fait, de notre marche avec le Seigneur. Et si nous considérons le salut, nous pouvons voir trois notions primordiales qui en découlent. La justification. Nous sommes en effet justifiés par la grâce de Dieu par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, nous dit Paul en Romains 3, 24. Et c'est vrai que le Nouveau Testament insiste sur cette nécessité de la foi en Jésus. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La grâce de Dieu est la source du salut qui est en Jésus-Christ. Mais nous sommes aussi invités à travailler pour ce salut. Paul le dit lui-même en Philippiens 2, verset 12. Il dit « mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » Cet appel, c'est l'appel à la sanctification qui vient après la justification. Et en ce sens, c'est se mettre à part pour Dieu en se séparant du péché. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et nous attendons ainsi un héritage qui peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il nous est réservé dans les cieux, à nous, qui par la puissance de Dieu sommes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Premier épître de Pierre, chapitre 1, versets 4 et 5. Nous sommes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ce moment-là, c'est le moment de la glorification. En ce sens, la sanctification pleinement accomplie, qui est à venir au moment où nous serons avec le Seigneur. Et comme le dit Paul, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Romains 8, 23. Alors je voudrais qu'on regarde ce matin plus précisément cette nécessité de la sanctification qui commence au moment où nous saisissons pleinement l'appel du Seigneur et qui s'accomplira totalement au moment de son retour. Alors ce sujet de la sanctification est vaste et je n'ai pas ce matin le temps de pouvoir aborder tous ces aspects. Mais je voudrais ce matin qu'on se concentre sur quelque chose d'essentiel, c'est cette nécessité de sainteté dans notre vie. Et cette notion de sainteté n'est pas très à la mode. On n'a pas tellement envie de parler de sainteté. La sanctification, ce mot est compliqué. Et si on regarde la définition d'un peu plus près, cela peut nous permettre de comprendre un peu mieux. Hein, si vous cherchez... D'où vient le mot sanctification? C'est la traduction du mot grec agiasmos qui signifie consécration. Et il vient aussi du mot agios qui signifie saint. Et son sens général, donc, c'est mis à part pour Dieu ou encore consacré pour Dieu. La sanctification, c'est ce processus de purification de l'homme en se séparant du péché et en se consacrant pour Dieu. On peut dire d'une manière générale et plus concrète que la sanctification, c'est reconnaître, saisir la volonté de Dieu pour nos vies, distinguer ce qui est bon et juste de ce qui est mauvais, se séparer du péché et se laisser transformer pour être à l'image de Christ. On tend ainsi vers la sainteté. Et si la sainteté est l'état à revêtir, la sanctification est en tout cas le processus pour l'atteindre. Il y a aussi dans la sanctification cette notion nécessaire de séparation et de consécration pour Dieu, qui est exprimée d'ailleurs dans la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, cette parole de Dieu lui-même, donnée à Moïse pour le peuple d'Israël, nous fait considérer cette nécessité de séparation. En Lévitique, chapitre 20, versets 24 et 26, il nous est dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai mis à part des autres peuples. Vous serez saints pour moi, car moi, l'Éternel, je suis saint. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Ce que Dieu souhaite au travers de la sanctification, c'est d'être à lui. Et il n'y a pas de possibilité d'être à lui sans sainteté. Dieu est saint. Et si on devait se le rappeler, nous avons beaucoup de versets dans la parole de Dieu qui nous rappellent et qui nous font mesurer, si on peut, la sainteté de Dieu. En Habacouc, chapitre 1, verset 13, il nous est dit que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir, pour accepter le mal ou pour le partager. Le premier épître de Jean, au chapitre 1, verset 5, nous est dit « Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. » Il n'y a pas en lui d'iniquité, nous dit le psaume 92. Il n'y a pas de place auprès de lui sans sainteté. Et je voudrais vous lire ces paroles du livre du prophète Ésaïe que nous avons déjà lu, mais qui nous fait considérer, si on peut en tout cas, la sainteté dans la gloire de Dieu. L'année de la mort du roi Ozias, je lis en Ésaïe au chapitre 6, versets 1 à 7. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun six ailes. Deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds, et deux dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et il dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » L'Éternel est le Dieu trois fois saint. Il n'y a rien de comparable à sa sainteté. Le contraire du mot « saint », c'est ce qui est impur et donc souillé. Seulement ce qui est saint peut entrer dans la gloire de Dieu et donc dans la vie éternelle. Et en Apocalypse 21, verset 27, il nous est dit « Il n'entrera dans la nouvelle Jérusalem, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. N'entreront donc dans la gloire de Dieu que ceux qui sont trouvés saints. Heureux et saints, ceux qui ont pris part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Jésus-Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Apocalypse 20, verset 6. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ce qui caractérise l'humanité, c'est une position souillée, impure, c'est l'état de fait de l'humanité. En Romains 3, verset 23, nous lisons « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Alors, qui sont ces saints? Qui sont ces saints qui entreront dans la gloire de Dieu? Eh bien, Paul nous le dit. Paul nous le dit et le dit à l'église de Colosse, en Colossiens 1, versets 12 à 14. Il dit aux frères de l'église de Colosse, « Rendez grâce au Père. Vous, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils et de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » C'est vous, entre guillemets, ce sont ceux qui ont été rendus capables de prendre part à l'héritage des saints, ce sont ceux qui ont été justifiés en Jésus-Christ. Et ceux-là sont ceux qui ont été rachetés par le sang de Christ au moyen de son sacrifice à la croix, qui croient en lui et ont reçu le pardon des péchés. Ceux-là seuls ont été rendus capables de prendre part à l'héritage des saints par Jésus-Christ. En effet, cet accès à l'héritage des saints est rendu possible par Jésus-Christ seul. Ils sont gratuitement justifiés, nous dira Paul, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous avons donc été gratuitement justifiés par la grâce au moyen de la rédemption en Jésus. En ce sens, nous avons été lavés et sanctifiés par Christ. Et je vous rappelle encore ces paroles. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Par cet acte, le croyant est donc placé dans une position de sainteté qui lui est octroyée par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et celle-ci s'accomplit en Christ en vertu de l'œuvre de la croix. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Nous avons été placés dans cette position de sainteté et Dieu souhaite ne pas s'arrêter là. Il souhaite faire croître en nous cette sainteté. Dieu est saint, Jésus-Christ est saint et il souhaite poursuivre cette œuvre de sainteté dans nos vies pour tous ceux qui lui appartiennent. Et d'ailleurs, nous lisons dans la parole, et notamment en Apocalypse 22, verset 11, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Dieu souhaite que nous soyons saints. C'est plus qu'une exhortation, c'est plus qu'un encouragement, c'est, je crois, un commandement. Encore une fois, dans Lévitique 19, nous lisons au verset 2, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Et nous lisons également cette même réalité, ce même commandement, dans le Nouveau Testament, en 1 Pierre 1, verset 15. « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Cette volonté de Dieu à notre égard est une permanence dans la parole de Dieu. Et donc, la volonté de Dieu pour ceux qui ont reçu son appel, pour ceux qui sont appelés ses enfants. C'est la volonté de Dieu que nous soyons saints. Alors quel est le but? Quel est le but de la sanctification? En tout cas, le but de la sanctification, c'est d'abord d'être à l'image de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, Paul le dit en Romains 8, verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et la volonté de Dieu et le but de la sanctification, c'est d'être rendu semblable à l'image de Christ. La sanctification, c'est quoi? C'est un processus de nous mettre à part, en nous séparant de notre ancienne nature, en nous consacrant pour Dieu, pour être à l'image de Christ. Et cette œuvre s'accomplit dans nos vies par la puissance et l'action du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous sanctifie tout entier. Mais je crois qu'il y a aussi un motif qui doit nous pousser à la sanctification. Et ce motif nous est aussi annoncé dans la parole de Dieu. Ce motif, c'est d'être conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul le dit d'ailleurs dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, versets 23 et 24, il dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, tout entier. » Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Je dirais, voilà le motif qui doit nous pousser à la sanctification. Afin que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Voilà la promesse qui nous est annoncée dans la parole. Christ viendra en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Voulez-vous être de ceux-là? De ceux qui seront en ce jour-là devant le Seigneur? Je crois que nous sommes appelés à rechercher la sanctification sans laquelle nous ne pourrons pas voir le Seigneur. Alors attention, la sanctification pourrait nous entraîner sur des terrains qui ne sont pas forcément la réalité. Et lorsqu'on regarde le mot sanctification ou sainteté, le danger, c'est de voir naître des théories ou des aspirations qui sont dangereuses. Et je crois que la sanctification, ce processus nécessaire dans notre vie chrétienne, n'est pas en tout cas une bénédiction que nous recevons immédiatement une fois pour toutes. Ce n'est pas une bénédiction qui suit la conversion et que nous recevrions comme ça une fois pour toutes en permanence. C'est vrai que par la rédemption en Jésus-Christ, nous sommes justifiés par lui et nous sommes sanctifiés par lui. C'est une réalité. Je vous rappelle ces paroles de Paul. C'est là que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés et vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Et c'est vrai que nous sommes sanctifiés par lui et donc saints au moment où nous sommes lavés de nos péchés. Nous prenons part à l'héritage des saints, mais nous sommes aussi appelés à nous laisser transformer à partir de ce moment-là, à nous laisser transformer par la sanctification en nous débarrassant du vieil homme et en revêtissant l'homme nouveau. Et d'ailleurs, Paul insiste aussi sur cet aspect. Il dit à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, mais qui sont appelés à être saints aussi. La sanctification ne nous est pas présentée, je crois, dans la parole de Dieu comme unique, comme accordée une fois pour toutes, dès le départ, mais comme appelée à se poursuivre. À se poursuivre au moment de notre conversion, dans toute notre vie, l'âme, l'esprit et le corps, afin que toute forme de corruption, tout fil de fer, soit débarrassé de notre vie. Et ce que dit l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, « Rechercher la sanctification » va dans ce sens. Si la conversion est souvent plus instantanée, la sanctification, elle, est un processus qui s'étale dans le temps, dans notre vie chrétienne. Et elle consiste à laisser agir Dieu dans nos vies par son Esprit Saint. Et j'aime bien cette image de la naissance et de la croissance. La naissance, c'est un moment particulier. C'est un moment immédiat. Nous naissons. C'est un moment à part qui se fait immédiatement. Et la croissance qui suit la naissance, eh bien, c'est une étape qui s'étale dans le temps. Eh bien, je crois qu'il en est de même pour la conversion et la sanctification. Au moment de la conversion, nous sommes justifiés par Christ, et c'est un moment particulier de notre vie chrétienne. Et en ce sens, nous sommes placés dans un état de sainteté. Mais suit aussi immédiatement, après la conversion, une croissance. Une croissance nécessaire dans notre vie avec le Seigneur, Et la sanctification prend à ce moment-là toute sa part dans notre vie. Alors le danger qui peut venir à l'esprit, c'est se poser la question à quel degré de sainteté je peux parvenir. Peut-on considérer la sanctification dans nos vies comme une forme de perfection à atteindre? Et si je considère la sanctification ainsi, le danger, c'est à ce moment-là de considérer qu'il y a des chrétiens qui ont atteint un certain niveau et d'autres chrétiens qui sont à un niveau intermédiaire, voire tout en bas. Cette considération de la sanctification serait alors une considération purement humaine, puisque l'homme penserait qu'il suffirait d'accomplir une performance pour atteindre un degré toujours supérieur de sainteté. Et le danger, c'est de se croire supérieur à d'autres, et que notre recherche de perfection nous arrive à considérer l'autre comme inférieur. Et je crois que la considération de la sanctification dans ce sens entraîne une dérive grave, qui est une dérive orgueilleuse, plus qu'une nécessité d'humilité. La sanctification est tout sauf cela, je crois. Si la sanctification relève ou révèle quelque chose dans notre vie, ou si elle doit révéler quelque chose, c'est justement notre propre imperfection. Elle met devant notre regard, devant notre vie, cette nécessité de progresser avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. Si la sanctification révèle quelque chose, c'est cette nécessité de marcher de progrès en progrès dans l'œuvre de Dieu. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul nous appelle à marcher dans ce sens. Il dit lui-même, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers ce but. Et je crois que nous sommes invités, chacun et chacune, à courir vers ce but, à regarder ce but-là, ce but merveilleux de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous avez ce matin, dans ces paroles, à regarder la vocation céleste. Vous avez une vocation céleste. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de se dire que le Seigneur veut pour nous, dans nos vies, que nous réalisions qu'il a mis devant nous une vocation céleste? Jacques reconnaît lui-même que nous commettons tous des erreurs de plusieurs manières. L'apôtre Jean déclare, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. C'est au ciel que nous serons pleinement sanctifiés, que nous serons semblables à l'image de Christ, et nous paraîtrons devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. » C'est d'ailleurs ce qui doit motiver la sanctification, ce qui doit motiver à nous purifier, à nous séparer du péché et à se consacrer pour Dieu. Alors nous ne sommes pas arrivés à la perfection. Mais la sanctification n'est pas pour autant une réalité à venir. Elle doit être dès à présent une réalité dans nos vies, une réalité pour tout homme né de nouveau. Elle est la volonté de Dieu pour nos vies dès la conversion, et je dirais que nous pouvons faire de nos délices la recherche de la sanctification, afin d'être transformés à l'image de Christ. La sanctification n'est pas une réalité future. Elle est à rechercher dès à présent. Et c'est, je crois, un processus de croissance de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et Paul dira en Philippiens 1, verset 6, « Nous avons confiance que Dieu terminera l'œuvre qu'il a commencée en nous. » Nous avons confiance que Dieu terminera l'œuvre qu'il a commencée en nous. Alors cette réalité, cette volonté de Dieu pour nos vies n'est pas nouvelle. Nous avons lu plusieurs passages de l'Ancien Testament qui nous montre que Dieu souhaite nous sanctifier. Et Dieu a souhaité sanctifier son peuple. Et l'Ancien Testament nous montre, dans bien des passages, cette réalité toujours d'actualité de la sanctification. Et j'ai pris juste deux exemples pour vous montrer cette permanence de la volonté de Dieu, qui nous montre que Dieu a voulu sanctifier son peuple. Alors je prendrai rapidement l'exemple du tabernacle et du sabbat. Dieu avait ordonné à Moïse de lui faire un sanctuaire. Le but était que l'Éternel Dieu habite au milieu de son peuple. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux, dit l'Éternel Dieu en Exode 25, verset 8. Et l'Éternel indiqua à Moïse comment construire ce sanctuaire selon le modèle qu'il souhaite, le tabernacle. Et au verset qui suit, il dit « Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Et l'Éternel indiqua de quelle manière très précise faire ce sanctuaire, ainsi que les ustensiles qui le composent, et ceux qui seraient désignés, mis à part, pour le service dans le sacerdoce. Et tous les chapitres 25, 26, 27, 28, 29 du livre de l'Exode, 5 chapitres, nous détaillent la construction du sanctuaire de Dieu et de ce qui le compose. Alors ce matin, je vais ne pas vous dire les 5 chapitres, mais en tout cas, une fois cela instauré, l'Éternel Dieu sanctifia le tabernacle, ses ustensiles, l'autel des holocaustes, les sacrificateurs mis à part pour ce sacerdoce. Et il nous est dit à la fin de ces 5 chapitres, en Exode 29, versets 42 et 46, « Voilà. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. » Ce lieu sera sanctifié par la gloire de Dieu et il sanctifie Aaron et ses fils pour qu'ils soient dans ce service. L'huile sainte est répandue sur la tente, l'arche, la table, le chandelier, les ustensiles, l'autel, et servira d'onction sainte pour le sanctifier. De même, Aaron et fils et ses fils recevront cette onction d'huile sainte pour être sanctifiés et mis à part pour le service dans le sacerdoce. En instituant cela, Dieu a voulu habiter au milieu de son peuple et le sanctifier, nous dit la parole. Un autre exemple qui nous montre cette volonté de Dieu de lui être consacré, c'est le mot sabbat. Sabbat qui veut dire repos ou encore cessation d'activité. Le septième jour de la semaine, le samedi, jour de repos ordonné par Dieu lors de la promulgation de la loi donnée à Moïse pour les Israélites. Ils se réjouissaient ce jour-là de l'œuvre de Dieu pour la création et se reposer. Et en Genèse 2, verset 2, nous lisons son origine. Dieu acheva au septième jour son œuvre, il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu lui-même sanctifia le sabbat, ordonnant à son peuple de le mettre à part. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, dit l'Éternel. Et il est plusieurs fois affirmé que le sabbat est un signe que Dieu veut sanctifier son peuple. Nous le lisons en Exode 31, verset 13. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Au travers de ces deux exemples de l'Ancienne Alliance, que sont le tabernacle et le sabbat, Dieu a voulu habiter au milieu de son peuple et le sanctifier. Dieu a voulu que son peuple soit au bénéfice de sa sainteté et qu'il en soit rempli. Il a autrefois sanctifié le sanctuaire d'Israël en venant y habiter. Cela doit nous aider à comprendre que Dieu souhaite aujourd'hui aussi que nous soyons au bénéfice de cette même réalité pour nos vies. Ce n'est pas une vérité passée, ce n'est pas non plus une réalité à venir, mais c'est la volonté de Dieu pour aujourd'hui. Il souhaite aussi nous sanctifier comme autrefois. Et si autrefois Dieu souhaitait sanctifier son peuple et habiter au milieu d'eux, il en est de même aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas dans un temple fait de main d'homme, dans un sanctuaire fait de main d'homme, que Dieu souhaite faire sa demeure et le sanctifier. Dieu souhaite sanctifier vos vies aujourd'hui et faire de vos vies un temple du Saint-Esprit. Cette présence de Dieu dans vos vies, c'est le privilège de l'enfant de Dieu. C'est le privilège de ceux qui sont appelés à vivre selon l'Esprit de Dieu. Si autrefois Dieu a voulu habiter au milieu de son peuple, au travers du tabernacle, aujourd'hui vous êtes le temple du Saint-Esprit où Dieu souhaite faire sa demeure. En ce sens, il est important, je crois, de considérer l'importance de se sanctifier. Alors je voudrais terminer ce matin par ce passage qui nous fait justement mesurer cette réalité et cet appel pour nos vies. Ce passage que nous donne l'apôtre Paul et qui se trouve en 2 Corinthiens au chapitre 6, verset 16 et jusqu'au chapitre 7, au premier verset. Et Paul, je crois, nous montre bien cette réalité pour aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Paul dit, nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit autrefois, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ceux qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayez donc de telles promesses. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen.